Cap-Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap-Cap avec un couple de romanciers. Vous ne les verrez jamais l'un sans l'autre. Pour autant, ils écrivent chacun leur roman, à une exception près, dont nous allons parler. Et vous allez le voir, ils sont très prolifiques. Bonjour Muriel Carchon.
Bonjour Jacques.
Et bonjour Yves Carchon.
Bonjour Jacques.
Et puis nous sommes en compagnie toujours de nos deux stagiaires, de nos journalistes de l'IEJT, Maëva Feltz et Léna Borans. Alors, messieurs, monsieur et madame Carchon, monsieur, comment c'est arrivé là? Vous étiez bien tranquille, vous aviez chacun un métier, vous alliez jouir d'une retraite paisible et puis d'un coup comme ça on se lance dans l'écriture, ça a démarré quand? À la retraite ou avant la retraite?
Non, bien avant la retraite.
Ah.
Bien avant. J'ai commencé très jeune à avoir envie d'écrire, vers l'âge de 17 ans. Et j'ai décidé aussi de voyager, pensant que le voyage serait un aiguillon de l'écriture.
Et ça a marché?
Et ça a marché, apparemment j'ai fait les deux. J'ai pas mal voyagé et j'ai commencé donc à écrire des nouvelles, des romans. J'écris aussi pour le théâtre. Voilà, et c'était souvent inspiré de ce que j'avais pu voir au gré de mes voyages qui m'ont emmené assez loin.
Et Muriel, même schéma?
Alors moi, c'était un autre chemin. J'ai rencontré Yves lors d'un voyage. Donc déjà,
Lui, il a voyagé utile, hein. Il a engrangé des expériences et il a trouvé une épouse.
Oui, mais pas seulement une épouse, une lectrice aussi, et très attentive et très exigeante, et où je lui demandais, mais resserre ce passage, et là, mais exploite cet instant, développe ce personnage. Et du coup, j'ai aiguisé mon sens critique au niveau de l'écriture. J'étais déjà une très grande lectrice. Et ce qui fait que, eh bien, nous en sommes arrivés à l'écriture d'un roman, d'un premier roman à deux.
Donc ça fait quand même très longtemps que vous écrivez, bien que vous ne soyez pas des auteurs très âgés, mais quand même, vous en avez combien en compteur? Si on ajoute ceux de Muriel et ceux d'Yves?
Oh, une vingtaine, on va dire. À deux? Oui, à peu près 20, 25?
8 euros. Je vais être plus modeste, moi, 8 pour moi, et un recueil de contes.
Et le reste, c'est Yves, bien sûr. Et quelles étaient les motivations? Parce que on peut aimer les livres, on peut aimer les lire, mais les écrire, c'est quand même autre chose,
une autre démarche. Écrire, c'était pour moi, c'était justement restituer ce que j'avais vu. J'avais l'idée aussi, en voyageant, de revenir avec des carnets de voyage, ce que j'ai ramenés et qui m'ont servi ensuite à commencer à écrire, on va dire, des nouvelles.
Ça veut dire que vous avez écrit des livres de voyage ou alors c'est...
Non, pas des livres de voyage.
Pas spécialement,
mais
pas comme notre ami Pierre-Jean Brassac, on connaît bien sur cette antenne.
Oui, Brassac, oui. Effectivement, il a fait pas mal de choses de son côté. Du mien, non, c'était pas franchement des... J'ai un journal de voyage que j'ai gardé, dans lequel je puise régulièrement pour écrire des nouvelles, pour écrire parfois même le début d'un roman.
Alors comment ça se passe, Muriel, un livre? Comment ça naît? Comment ça vient? C'est une idée qui vous trotte, que vous développez longuement?
Oui, alors moi, je ne parlerai pas des deux premiers romans que j'ai coécrits avec Yves, on en parlera, on l'évoquera peut-être plus tard.
Tout à l'heure de ces coécritures.
Voilà, mais si je devais parler de mon premier roman, donc en solitaire, En fait, ça a été un fait très marquant. Ça a été les fins des années 2015, il y a donc une dizaine d'années de cela, le Bataclan. Et j'étais assez mal dans ma tête, comme beaucoup de personnes à cette époque-là. Et j'ai eu envie de m'évader, de m'échapper. Et moi qui suis une femme de la terre, j'ai pris un grand trois-mâts dans ma tête. Je suis une femme, j'ai pris un garçon, je suis un petit peu légèrement âgée, eh bien je me suis fait jeune homme. Donc j'ai fait un mousse sur un trois-mâts. Bon, au 21e siècle, c'est pas possible, je nous ai placé tout cela au 19e siècle et a démarré mon premier roman en solitaire. Croire en son destin et oser le vivre. Voilà le titre.
Et Yves, comment ça s'est passé, le premier livre?
Oh, le premier livre, alors c'était...
Vous en souvenez de ça?
Oui, oui. C'était une chronique amoureuse qui se passait sur Lyon, inspirée pas mal de ce que j'avais vécu avec Muriel. Donc c'était une chronique, d'un amour un peu, on va dire, l'écume des jours à la lyonnaise. Voilà, c'était un peu dans cet esprit-là, avec déjà un souci de parler de l'art, et notamment du vitrail. Donc le motif principal était un vitrail. Dans ce vitrail, on pouvait imaginer une vie de plusieurs personnages, dont deux, qui étaient mes deux personnages amoureux. Voilà.
Il y a beaucoup d'amour hein, dans vos livres, c'est ça?
Oui, alors il y a de l'amour, il y a de la curiosité, il y a de la passion, il y a du questionnement aussi, assez souvent pour ma part.
Alors quand vous faites des livres, vous pensez à faire quelque chose qui vous plaît, ou alors quelque chose qui va plaire à vos lecteurs? Est-ce que c'est y a une espèce de vision un peu commerciale en arrière-plan?
Alors, pour ma part, absolument pas, puisque moi, mon deuxième livre, après donc un roman d'initiation, je me suis lancée carrément dans un roman d'anticipation. Donc l'anticipation n'a pas vraiment la cote, on va dire, actuellement.
Oh, quand même.
Oui, mais enfin, c'était en 2016-2017, tout cela, voilà. Donc non, j'écris sur ce que j'ai envie, sur les sujets qui m'intéressent. Souvent, c'est un thème qui va s'imposer à moi, qui va créer le roman. Et c'est pour ça que je change de genre.
Donc vous ne dites pas « je vais écrire quelque chose qui va se vendre, qui va plaire aux éditeurs parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est ça qu'il faut écrire ». Non, non, c'est une démarche purement personnelle.
Oui, parce que je pense qu'il faut bien différencier un livre fabriqué qui est destiné à un public et un livre porté par quelque chose qui est une nécessité, je dirais, intérieure.
Malheureusement, les livres portés, il y en a de moins en moins. Enfin, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas ceux dont on parle le plus.
Je sais, mais c'est dommage.
Aujourd'hui, c'est les commandes des éditeurs. Il y a des gens qui ont des contrats, qui sont tenus de faire un livre par an, notamment dans le polar.
Oui, c'est vrai.
Donc ces garçons doivent s'épuiser un peu.
Oui, ben, souvent, hélas, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'ils refont le même bouquin. Je me demande même s'ils y trouvent quelque plaisir.
Ah, il y a des gens qui ont écrit à peu près toujours le même livre, Dormesson, mais ça avait tellement de talent que finalement, on avait toujours autant de plaisir et ce n'était jamais le même livre tout en étant un peu le même.
C'est vrai, mais c'est vrai qu'il faut cette notion de plaisir. Je pense qu'effectivement, il faut que c'est soi-même, nous ayons le plaisir.
Ça se sent d'ailleurs. Hein, ou alors, il faut beaucoup de talent pour que ça ne se sente pas.
Voilà.
Est-ce que vous avez écrit, donc, pendant que vous travailliez, vous aviez chacun un métier à l'époque?
Non.
Sauf pour Muriel, elle a écrit après, à la retraite.
Moi, j'ai écrit après, à la retraite.
Mais Yves...
Moi, c'était plus compliqué. C'est vrai qu'en travaillant...
Vous arriviez à faire ça.
Pour être honnête, c'est très compliqué. J'ai dû écrire un roman quand j'écrivais. C'était quand nous étions en Guyane. Mais là, c'est imposé un peu la forêt. Donc, c'est un roman qui raconte un peu c'est une geste de plusieurs personnages qui raconte l'épopée d'aventuriers qui sont partis à la conquête de l'Eldorado en Guyane, où il y avait de l'or à l'époque. Nous étions en 1910.
Il y a encore de l'or.
Oui.
Il y en a encore.
Enfin, on le dit.
Voilà. Donc, là, je l'ai écrit, je dirais, à chaud quasiment.
Et alors, aujourd'hui, vous avez tout le temps d'écrire, tout le temps pour vous, ce qui est merveilleux. Comment vous travaillez ? Ça, c'est une question que les lecteurs se posent toujours. Quand est-ce qu'il écrit ? Comment il écrit ? Sur un cahier, sur un ordinateur ? À quel moment ? Expliquez-nous un peu votre rythme.
Alors, pour moi, j'ai besoin d'être réveillée. Je me lève tôt.
Il vaut mieux, hein, pour écrire, quand même.
Il vaut mieux, mais parfois, c'est pas ça. Le fait d'écrire de suite, j'ai essayé le matin au réveil. Ça peut aussi donner des choses intéressantes. Mais bon, je me suis rendu compte qu'il me fallait avoir plein d'ordre, et notamment dans ma tête, et aussi avoir un peu marché. Alors, très souvent le matin, je vais faire tout ce qu'on va dire qui appartient au monde matériel. Et j'écris, en fait, beaucoup plus l'après-midi. Je m'installe dans mon bureau avec ma chatte, Mouna. Coucou Mouna. Et je me mets à écrire. Voilà. Quand j'ai déjà quelque chose qui est en train. Autrement, je lis.
Et Yves, ça se passe comment là ? Yves, il ne fait pas les courses.
Si, justement. Donc, je m'occupe pas mal de la maison,
absolument,
de la cuisine, et également, voilà. Donc, j'écris aussi l'après-midi. En fait, je me calque sur Madame.
Donc, si on va voir les carchons, il faut pas y aller l'après-midi. Parce que là, on est vraiment important. Ouais. Hein.
Voilà. Exactement. Donc, on va dire entre 14h et 18h. Voilà.
Et vous écrivez, vous avez chacun votre pièce, chacun de son côté. Voilà. Et est-ce que vous vous relisez, vous vous conseillez, vous vous critiquez ?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Alors moi, mon premier roman en solitaire, justement, j'ai éprouvé le besoin au bout d'une trentaine de pages Word. Je me suis dit, mais je vais où comme ça ? Mais est-ce que ça tient la route, tout ça ? Et donc j'ai été voir Yves Carchon, celui qui avait déjà l'expérience, parce que l'avais...
Le vieux, oui, dans le métier.
Voilà,
le
vieux Briscard, si je peux dire, puisque c'était un roman sur la voile. Et là, il m'a dit, vas-y, tu peux continuer. Et donc, au début, mes deux premiers romans, je l'ai sollicité en cours d'écriture. Ouais, c'est fini.
Il s'est montré bon prince quand même. Et,
voilà.
Il n'y a pas de compétition entre vous deux. Si, y a pas de jalousie, on ne se tire pas la bourre, comme l'on dit.
Non, aucune.
Non, mais parce que je crois que...
Il y a une émulation quand même.
Absolument. Oui, en revanche, on est ravis quand on sait que l'autre a quelque chose en chantier. Moi, pour moi, ça tient du chantier quand on va commencer à écrire. Après, c'est autre chose. Mais là, moi, je suis ravie. Yves, actuellement, a démarré quelque chose. Voilà, c'est là. Et je sens, il devient un peu différent. Il est toujours là. Il habite toujours avec moi.
Mais il est quelque part dans sa tête. Il est dans son texte, dans son monde.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Maëva, qui est une grande lectrice.
Ah. Oui, je voulais savoir comment se passe l'écriture à deux, du coup. Comment vous arrivez à vous organiser ? Est-ce que c'est pas trop dur ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'idées qui se mélangent ?
Alors, plus globalement, comment on écrit à deux ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent à deux, mais c'est quand même pas pareil. Hein. C'est une activité très solitaire, l'écriture. Écrire à deux, c'est une autre aventure totalement différente.
Je commence, peut-être ?
Oui. Allez, Muriel.
Alors, ça a été mon premier roman quand il a fallu écrire à deux. Et ce premier roman, a été suite au décès de mon frère. Je suis née en Algérie et Martial était la mémoire de notre famille. Et Yves aimait beaucoup Martial et m'a proposé, quelque temps après, d'écrire quelque chose sur l'Algérie. Et je n'étais absolument pas partante parce que moi, les 50 dernières années, je vivais paisiblement avec tout cela. Et c'est là où il m'a proposé, il me dit, nous allons chercher une pépite. Et nous avons trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Et pour répondre à Maëva, donc nous avons conçu, suite à cette pépite que nous avons trouvée, nous avons conçu un plan très serré, nous avons créé des chapitres très structurés, et à partir de là, tous les matins, nous marchions, et on communiquait là où nous en étions, chacun dans notre écriture. Voilà, peut-être que...
Ça veut dire que chacun écrit un chapitre ?
Alors, pas nécessairement un chapitre. Ça peut être des passages dans un chapitre. Ça peut être aussi faire naître un personnage, parce que ça s'est imposé à un moment donné dans l'écriture de l'un. Mais le challenge était qu'il fallait que l'autre reprenne le personnage, mais avec sa psychologie. Il est bien évident que quand, par exemple, Yves ou moi, nous créons un personnage, il fallait absolument que l'autre dise, ne lui fasse pas dire des choses qui ne pouvaient pas correspondre.
Il fallait qu'il y ait une cohérence.
Il faut que ce soit cohérent, voilà. Donc le gros problème, c'est ça, c'est la cohérence, et puis essayer, si possible, de garder le même ton, parce qu'un récit, un roman, c'est un ton, c'est un rythme, mais c'est surtout un ton. Donc le ton, il faut garder un ton uni, donc ce qui n'est pas du tout aisé à deux. On y est arrivé.
C'est plus facile d'écrire à deux quand on est un couple, donc on se connaît parfaitement, et en plus on vit ensemble, a priori. Ou alors, lorsque ce sont deux écrivains qui n'ont rien en commun. On a certains de nos amis, François-Henri Soulier, dont nous parlions au micro, qui a écrit passablement deux livres avec un complice, mais eux n'étaient même pas géographiquement dans le même lieu.
Oui, ben pour ce qui nous concerne, c'est sûr que, c'est un peu le... c'est une grande familiarité, on va dire, entre nous, qui a construit l'idée.
Donc il y a quand même, il y a une communauté d'esprit, c'est plus facile, peut-être.
Certainement.
Et alors, ça aboutit à quoi ? C'est le livre que j'ai sous les yeux, Les Moissons de l'Exil ?
Les Moissons de l'Exil.
Un gros livre, donc vous avez un très gros livre, mais moi, je regardais la pagination, et oui, on tutoie les 440 pages, 450 pages.
Oui, c'est un roman, en fait, qui donc est né, comme expliquait très bien Muriel, suite à la mort du frère de Muriel. L'idée étant de... Alors, la condition sine qua non était que Muriel coécrive le livre. Donc, au départ, elle n'était pas très chaude. Je lui ai dit, c'est ça ou rien.
Ou je divorce.
On était au bord du divorce, quasi. Et donc, elle a accepté le challenge. Et donc, ensuite, on s'est... Alors, elle ne voulait surtout pas écrire sur la dernière période, guerre d'Algérie.
Oui, la plus dramatique.
Qui était encore douloureuse pour elle, même encore aujourd'hui. Donc, l'idée nous est venue de retourner un peu au début de ce qu'étaient ces gens qui étaient partis peupler l'Algérie en 1848.
Au moment où la France avait faim, comme vous l'avez écrit dans votre quatrième de couverture.
Tout à fait.
On peut la lire, cette quatrième.
Bien sûr.
En juin 48, la France a faim, c'est l'insurrection à Paris, en Lauragais, donc on est quand même un peu proche de chez nous. Un jeune couple, Jean et Albertine, quittent la ferme pour se donner un avenir. De leur côté, Jules et Justine fuient la révolution manquée. Sur les quais de Bercy, d'autres Français choisissent l'exil. Après un long périple, ils rejoignent Marseille, embarquent pour l'Algérie. En traversant la Méditerranée, l'espoir au cœur, tous rêvent d'une autre vie. Tout est à faire sur cette nouvelle terre. En débarquant, ils découvrent un pays, un climat, un peuple métissé où juifs, arabes, européens vivent ensemble depuis des siècles. Leur ténacité, leur courage les aideront à surmonter 1000 épreuves pour bâtir Aïmia, je ne sais pas si je le prononce bien, l'un des premiers villages d'Oranie. Leur destinée se mêle, portée par le courage de Baptiste, la passion de Justine, la solidarité de Jules, l'amour fou de Mokhtar, le rêve d'un nouveau monde pour Philibert et pour Anna, le dévouement à son domaine, l'orangerie. Voilà, ça c'est le cadre des Moissons d'exil de Muriel et Yves Carchon, et qui sont, je veux quand même préciser, les éditions...
Les Moissons.
Et qui
de la geste.
Les Moissons, oui, c'est la geste qui est derrière, c'est l'éditeur. C'est une épopée.
C'est une épopée, effectivement, une fresque aussi. Au départ, alors nous avons fait beaucoup de recherches, évidemment, beaucoup de documentation. On a été aux archives d'Afrique du Nord, à Aix-en-Provence, entre autres. Et en faisant de ces recherches, nous sommes tombés sur... ce que Muriel appelait une pépite, à savoir le journal d'un colon de 1848. Donc un gars qui s'appelle Vivant Bossé, qui est parti donc, avec tous ces gens, peupler cette Algérie nouvellement conquise, et il tombe malade, il est contraint de rentrer à Paris, et là, il va écrire dans l'Illustration de l'époque, qui était un journal de l'époque assez connu, plusieurs articles où il restitue un peu son voyage, dans quelles conditions il est parti, etc. Et pour nous, quand on est tombé sur ce document, ça a été la mine qui nous a permis donc de pouvoir puiser des éléments concrets du comment, du pourquoi tous ces gens étaient partis.
On va faire une première pause musicale pour digérer cette présentation avant d'y revenir. Vous l'avez choisi, Muriel.
Être né quelque part.
Non, c'est pas celui-là. Ce sera pour tout à l'heure, celui-là. Mais nous allons commencer. On pourrait commencer par celui-là, mais bon. Vous nous avez beaucoup parlé de Buena Vista Social Club.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que Buena Vista Social Club?
C'est une musique qui nous parle, à Yves et moi, parce que nous avons vécu en Guyane, juste au-dessus de l'état de Belém, donc le Brésil. Nous avons eu la chance de vivre la Coupe du Monde 98, France-Brésil. Donc c'est la joie de vivre, c'est la joie, c'est se sentir vivant.
Eh bien, sentons-nous vivants, nous les écoutons. Voilà, après ce détour guyanais, quasiment au Brésil, nous retrouvons nos invités Yves et Muriel Carchon. Et on est toujours, bien sûr, avec Maïva et Léna. Et Léna brûle de poser plusieurs questions, mais on va déjà commencer par une, Léna.
Oui, nous voulions savoir, est-ce que vous pensez faire une suite à cette œuvre,
à ce livre, enfin une suite.
Au Moisson de l'exil, donc, hein, dont on parlait avant la pause musicale. Vous avez des... Ah ouais, je vois leur sourire, ils y ont pensé. Non, mais ils y ont pensé, ça c'est sûr. Allez, dites-nous tout. Quel est alors, le projet
c'est, alors oui, nous sommes diablement tentés, sauf qu'il y a une nouvelle donne. Quand nous avons écrit ce roman, l'écriture, je n'avais pas beaucoup écrit. Et là, ça devient différent. Et puis, c'est aussi avancer dans le temps de l'histoire de cette Algérie.
On va finir par arriver en 62. Hein,
voilà.
À un moment ou un autre.
Voilà. Donc, si nous devions continuer, nous nous arrêterions à 1900. 1933, 1935, 1936, 1900.
Bon, alors on attend, on va voir ce qui va se passer. Alors, Les Moissons de l'Exil, ça c'est le dernier qui est sorti.
Oui.
Les Moissons de l'Exil, donc un gros livre, mais passionnant. Qu'est-ce que vous avez écrit d'autre ? Faites-nous un peu rêver, là. Parce que vous êtes, je l'ai dit en démarrant l'émission, vous êtes quand même prolifiques tous les deux.
Oui, c'est un peu l'émulation, je pense.
Ou tirer la bourre à savoir
quand je vois que Muriel commence à un roman, je me dis il faudrait peut-être que je
me mette à travailler, voilà. À écrire quelque
mais
chose.
C'est sûr que si elle commence pas, je ne commence pas. Ouais. Donc c'est elle généralement qui tire.
Donc il y a un entraînement. Alors qu'est-ce que vous avez, parce que vous êtes venu avec des livres là. Muriel, celui-là c'est le vôtre. C'est un polar.
Alors oui, alors c'est un polar en fait qui est une commande de l'éditeur, La Geste. Qui en fait est une suite de La Croisade de l'Élu qui est sortie en 2023. C'est un roman à couleur ésotérique où il y a un ordre du XIe siècle, un blason, des personnages. Je ne vais pas plus développer La Croisade. Et puis, cette commande m'a été faite pour qu'elle se situe. J'avais une contrainte, c'était le Lot-et-Garonne. Donc là, L'Ombre de l'Élu va se dérouler sur le Lot-et-Garonne. Et donc, ma difficulté a été d'écrire une suite parce que j'avais fini mon premier roman.
Lot-et-Garonne, on va le situer pour nos auditeurs qui sont très loin. C'est quoi ? C'est Agen ?
C'est Agen, Villeneuve-sur-Lot, le plus à l'ouest, Marmande, on va dire. Et vers le haut, l'est, ça sera... La Dordogne, je m'en sors bien.
Il y a eu quelques élus célèbres là qui ont un peu défrayé la chronique, non ?
Jean Jaurès, par exemple.
Jean Jaurès, encore ça va. Il y en a après quelques-uns qui ont été moins dignes que Jean Jaurès, on va dire, pour être gentil.
Jean Jaurès, c'était plus dans le Tarn.
C'est oui, plus dans le Tarn.
Il me semble qu'il était plus au nord quand même,
oui.
Hein, Jean Jaurès.
Alors, je ne sais pas, parce que je ne vivais pas à cette époque-là. N'oublions pas que j'étais au XIIe siècle.
Exact. Yves,
alors,
vous êtes attaqué à un monument, là, je vois la couverture.
Oui, alors justement, on parlait du livre de commande. Et je disais qu'un livre devait être porté. En l'occurrence, là, l'éditeur m'a demandé de m'inscrire dans une collection qui s'appelle Sherlock Holmes. Et donc, à nous de voir ensuite où le situer. Là, je l'ai situé à Libourne. Qui se situe...
Ça veut dire que vous avez amené Sherlock Holmes à Libourne ?
Voilà, alors la
collection... Ça a dû lui faire drôle, hein.
La collection demande, exige que Sherlock fasse son enquête en France.
Avec donc, Watson ?
Avec Watson, évidemment. Libre, donc il faut rester dans l'esprit de Sherlock, il faut rester dans la relation un peu étrange entre ces deux personnages. Surtout, il faut restituer l'année 1900, 1905, puisque c'est à peu près à cette période, et également faire en sorte que Sherlock ait une raison de venir en France. Donc là, en l'occurrence, à Libourne, j'ai trouvé le subterfuge qui est que Sherlock est un homme qui commande son vin à Libourne.
Ah, c'est vrai que les Anglais, ils sont quand même... Ils sont quand même bien implantés dans le Bordeaux et même au-delà.
Chez un maître de chai, et il s'avère que ce maître de chai a été assassiné. On comprend Sherlock qui est amené à devoir enquêter sur la mort de son maître de chai.
Voilà. Vous n'êtes pas timide quand même, vous attaquez à Sherlock Holmes. Alors, on a une amie commune, oui. Écrivain, Rosa Penn, qui s'y est aussi essayée avec beaucoup de bonheur.
Oui, alors c'est vrai que bon, Rosa Penn, en plus, est une spécialiste.
Oui, puisqu'elle a fait une thèse sur, sur Sherlock Holmes.
Donc, effectivement, il fallait quand même s'accrocher. Bon, moi, j'avais lu pas mal de Sherlock, et donc l'idée, c'était de restituer, mais pas franchement, parce que... Mon idée était aussi de donner une place à Watson qu'il n'a peut-être pas dans les autres. Donc, d'où la formule qui est à chaque fois employée par l'éditeur, une enquête inédite de Sherlock Holmes.
Est-ce que ce n'est pas intimidant de s'attaquer à un monstre pareil ?
Si.
C'est quand même extrêmement délicat, parce que ce qui a été écrit fait autorité. Pour être à la hauteur, il
faut... Si, alors justement, j'ai longuement hésité avant de me lancer dans cette aventure. Et puis, pour moi, c'était un challenge. Donc, je me suis dit, allons-y. Je me suis entouré de beaucoup de précautions. J'ai pris soin de relire quelques Sherlock. Voilà, et puis aussi, faut faire un travail de documentation. Hein. Par exemple, dès que vous commencez à appuyer sur un bouton électrique, vous vous demandez si l'électricité est encore arrivée dans la maison.
Le problème du roman historique, c'est qu'on se pose 10 questions à chaque phrase.
À chaque phrase, voilà. Donc, on est là, on avance un peu sur des œufs, mais on y arrive quand même. Le challenge, c'était aussi d'essayer de restituer cet humour... qui affleure dans Sherlock, quand on lit bien les aventures, et cette relation assez étrange entre Watson et Sherlock. Donc ça, c'était réellement le nœud de... je ne sais pas si j'y suis parvenu. Lecteurs me le diront.
Justement, on est dans le monde du livre, un monde assez particulier. Vous avez parlé de votre éditeur Lagesse, vous en avez eu d'autres auparavant. Qu'est-ce que vous pensez de notre édition française ?
Ah,
grand silence.
Je m'y lance en premier parce qu'en fait, j'ai eu un. Je pense qu'on peut les nommer d'ailleurs. J'ai eu un mon. Et c'est pour cela d'ailleurs que je tiens à le saluer. Les éditions Kern, qui ont pris un roman noir dans la collection Polar, parce que l'intrigue, d'après eux, était suffisamment soutenue pour paraître dans cette collection. Ça a été ma première expérience éditoriale, et voilà, ça a été positif pour moi, même si ça n'a pas été nécessairement rémunérateur. Mais ça m'a permis de mettre un pied dans ce monde-là. Après, j'ai un deuxième éditeur, donc que j'ai nommé déjà, La Geste, mais j'ai aussi un autre éditeur en 2023, puisque j'ai sorti aussi un roman noir, toujours dans une collection Polar d'ailleurs, parce que toujours une intrigue policière, qui s'appelle TDO. Voilà, et le roman, c'est Vendanges amères. Je touche à d'autres domaines, et je trouve cela intéressant que des petits éditeurs, je dis petits, mais sans aucune hiérarchie, dans le monde de l'édition, mais qui ont au moins le courage, l'énergie de promouvoir des auteurs qui seraient par ailleurs totalement méconnus. Cela nous permet au moins de rencontrer notre public, de partager notre proposition d'écriture et de lecture avec des lecteurs qui sont souvent, souvent enthousiastes quand ils arrivent à être dans les salons du livre.
Même avis, Yves ?
Oui, alors moi je parlerai surtout de ce drôle de couple qu'est l'éditeur et l'auteur, qui est une sorte de couple, je dirais, impossible, sachant que l'un comme l'autre poursuivent pas forcément les mêmes objectifs, et parfois même la même éthique. Voilà, donc du côté de l'auteur que je suis, il est clair que j'ai eu pas mal d'éditeurs que je salue. Ça fait toujours plaisir d'avoir un éditeur qui... Surtout les premiers textes, je crois. Après, on s'habitue, hélas, ou peut-être pas, je sais pas, mais les choses sont différentes. Les premiers textes édités... j'en ai eu, par exemple, cette fameuse chronique lyonnaise. J'ai été édité par un éditeur lyonnais qui était très peu connu qui a dû survivre 2 ans et qui est mort de sa belle mort, mais qui éditait de la poésie, qui m'avait donné ma chance d'une certaine façon. Et je le garde toujours en mémoire, comme je dirais une référence. Ensuite, les autres éditeurs qui se sont succédés ont fait leur travail.
Alors, vous parlez d'éditeur, mais un éditeur, pour moi, c'est quelqu'un qui sait lire et écrire, qui est capable d'apprécier un texte, d'en voir la pertinence, la qualité, notamment littéraire, et qui est capable d'accompagner son auteur dans l'écriture, lui dire bah là peut-être qu'il faut un peu diminuer, il faut raccourcir, il faut épaissir tel personnage, il faut aller dans telle direction, au moins de suggérer, de soutenir son auteur. Or nous savons, vous et moi et beaucoup d'autres, qu'aujourd'hui ce type de personnage, c'est-à-dire un métier d'éditeur stricto sensu, il y en a de moins en moins. Les éditeurs aujourd'hui, ce sont souvent des prestataires de services qui vont vous prendre un texte content d'avoir pour se mettre quelque chose sous la dent, qui vont faire une relecture rapide pour corriger les fautes, mais il en reste toujours, qui vont envoyer ça à l'imprimerie, faire une première de couverture, vous demander de rédiger la quatrième, et puis après, ils vont le distribuer ou le diffuser comme ils peuvent dans leur réseau qui est souvent limité. Ça s'appelle pas de l'édition, ça s'appelle de la prestation de service. Mais le métier d'éditeur, le métier de celui qui connaît le texte et qui va soutenir son auteur dans l'écriture du texte, il y en a très peu qui le font. Je me trompe ?
C'est vrai. Mais j'ai connu ce genre d'éditeur et je dois dire qu'effectivement, il y en a de moins en moins, pour ne pas dire qu'il n'y en a plus. À mon grand regret... et au regret, je pense, de beaucoup de gens, à commencer par les auteurs.
Le rêve de l'auteur, c'est de trouver un compagnon éditeur, c'est-à-dire quelqu'un avec
d'être
qui
accompagné.
Voilà, il va pouvoir parler, échanger, soutenir.
Complètement.
Parce que quand on écrit, c'est quand même la grande solitude. Vous écrivez à deux, vous appuyez l'un sur l'autre.
Ouais.
Et c'est quand même la grande solitude. Il y a un moment où on ne sait plus si ce qu'on écrit a quelque intérêt, si ce n'est pas finalement de la daube, pour employer un terme argotique. Et on a besoin à ce moment-là de vous remonter le moral pour poursuivre l'aventure. Et ça, quasiment, on ne le trouve plus.
C'est vrai.
Sauf dans les grandes maisons d'édition, voilà, dans lesquelles il est. Bon, si vous allez chez Gallimard, pour situer une des plus prestigieuses, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Et encore faut-il que vous soyez un auteur qui soit déjà reconnu, parce que si vous êtes un inconnu chez Gallimard, je ne suis pas sûr que le soutien soit des meilleurs non plus.
Non.
Donc aujourd'hui, l'écrivain reste quand même très seul.
Très seul, oui.
Et ça, c'est un énorme problème. Alors, il y a beaucoup de maisons d'édition, paradoxalement.
Oui.
On le voit. Hein. Mm. Il y a beaucoup de gens qui écrivent aussi. Il y a plus, de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Hein, ça, c'est possible. Il y a des gens qui ont le prurit de l'écriture. Tout n'est pas intéressant, mais il y a quand même des livres fabuleux ou des auteurs extrêmement intéressants dont on ne trouve pas les livres. Hors micro, nous parlons de René Frény, qui est un Giono. Nous parlions de Jean Darrow et de tant d'autres qui mériteraient un soutien bien plus important de leur éditeur.
Mais il faut dire, Jacques, pour aller dans votre sens, qu'en fait, le métier d'éditeur est assez récent. Il a à peine un siècle. À peine.
Il y a des métiers très récents, mais que certains qui les ont embrassés les font avec beaucoup d'enthousiasme et de qualité professionnelle.
Oui, voilà. Mais vous l'avez bien dit, ce sont les grosses maisons d'édition. Et effectivement, il y a beaucoup de monde qui écrit. Et effectivement, il y a tous les manuscrits qui sont envoyés par la poste ou par mail dans les grandes maisons d'édition, tous ne sont
pas. Vous recevez 2, 3, 4 manuscrits par jour.
Voilà. Donc, effectivement, il y a un écrémage. Il me semble qu'il y a le côté relationnel qui joue, très certainement. Le premier roman qui arrive par la poste, je veux bien y croire, mais je pense que c'est quand même un élément très très rare dans le monde de l'édition. Donc pour moi d'abord le relationnel dans les grosses maisons d'édition, être introduit alors par un auteur, par la secrétaire simplement de maison d'édition, tout cela.
Donc il faut approcher les secrétaires de maison d'édition. Il faut.
Ah oui, moi j'ai connu un auteur.
Il faut coucher là aussi, c'est ça.
Hein, ah je n'ai pas dit cela, attention. Hein.
Oui.
Tous ces gens qui écrivent, mais il y a quand même des gens qui lisent, on plaisantait en disant qu'il y a quand même des gens qui lisent, mais vous qui être beaucoup dans les salons du livre, dans des signatures, dans des librairies diverses et variées, voire même dans des librairies de grande surface, parce qu'aujourd'hui, il y en a certaines, ma foi, qui fonctionnent très bien et qui défendent très bien les ouvrages. Quelle est la moyenne d'âge de votre lectorat, vous le savez ? Est-ce que ce n'est pas un peu comme chez TF1, la ménagère de plus de 50 ans ?
Oui, on le constate, oui, bien sûr, 50, voire 60, très peu de jeunes, 80...
Bon, il faut dire ça, on a des jeunes autour de nous, on a Maëva qui est une grande lectrice.
Il faut savoir, pour défendre les jeunes, il faut quand même tout de même le dire, comment dire, ils ont beaucoup lu les mangas, ils continuent d'ailleurs de lire les mangas, est-ce que ça formate, je ne sais pas, mais ils sont aussi passés, Tolkien a été un génie. Ça a été un génie.
Il n'est pas tout jeune, Tolkien, hein, ça fait quand même quelques dizaines d'années.
Oui, oui, oui. Non, mais c'est lui le père de la fantasy. Enfin,
c'est lui
entre
le père.
Autres.
Ils ont tous repris cette veine.
Les jeunes lisent énormément. Ils viennent vers nous dans les salons du livre. Ils s'approchent comme ça. Les rares, je vous le concède, les rares jeunes qui fréquentent les salons du livre arrivent et puis ils regardent nos couvertures, ils voient les titres et ils voient bien que ce n'est pas de la fantasy. Ah, c'est pas de la fantasy. Et ils passent. Donc, ils lisent beaucoup de BD, de la fantasy.
Bon, c'est vrai qu'il y a aussi, en matière de BD, il y a des choses absolument admirables aujourd'hui.
Absolument.
Il y a de très, très grandes BD ou des romans graphiques.
Ou le roman graphique.
Ce qui ne veut pas dire grand-chose, ça reste toujours de la BD. Hein. Un peu plus de texte.
Voilà.
Donc, on en a des jeunes autour de nous. Léna, vous qui lisez moins peut-être que Maëva. Pourquoi vous lisez moins ? C'est par tradition, par goût, par manque de temps ? Par concurrence des écrans, peut-être. Vous êtes plus sur les écrans que sur le papier.
Au collège, je lisais beaucoup. C'est vraiment, je lisais beaucoup tous les jours. Et après, je sais pas, je pense que c'est un peu le manque du temps. En arrivant au lycée, j'ai un peu perdu cette habitude. Et oui, aujourd'hui, je lis beaucoup moins. Enfin, je lis le journal, parce que je suis en école de journalisme, du coup, je suis un peu obligée. Mais tout ce qui est roman ou quoi, j'ai plus trop le temps pour lire et voilà.
Alors Maëva, à côté de vous, sur cette antenne, d'ailleurs, nous parle beaucoup de livres dans son émission.
Je défends ce que dit Léna parce qu'on est issus de la même génération, on a eu le nouveau bac. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance, j'ai pris les spécialités plus littéraires, donc j'ai lu beaucoup en cours et en dehors. Mais c'est sûr que si on prend des spécialités plus scientifiques, on est moins amené à lire des livres, etc. Donc on est plus concentré et puis c'est pas facile la science qu'on nous impose au lycée. Donc je défends Léna sur ce qu'elle dit.
On ne l'attaque pas, hein. On voulait avoir son témoignage, c'était très intéressant. Est-ce que vous pensez qu'il y avait moins d'écran ou pas d'écran, vous liriez plus, Léna ?
Oui, je pense que si les écrans n'étaient pas autant présents dans nos vies, on serait plus amené à lire.
Oui, ça je pense aussi.
Oui, oui. Vous pensez que les écrans, ça nous vole du temps de cerveau ?
Oui, je pense que tout ce qui est les sites de streaming ou quoi, ça amène beaucoup plus de jeunes qui les détournent un peu du livre, du roman papier.
Et pas que des jeunes, je crois. Hein.
Effectivement.
Maëva disait quelque chose de juste tout à l'heure, à savoir qu'elle avait trouvé des parents, enfin elle était dans un milieu qui lisait. Et que si elle avait été amenée à lire, c'est aussi parce que ses parents... elle avait vu lire ses parents qui lui avaient passé des bouquins.
Oui, moi, j'ai un papa qui lit beaucoup et très vite. Hein, il est capable de lire un livre par jour. Et mère aussi. Mais
ils ne font rien, alors.
Si, ils travaillent. Ils ont beaucoup travaillé. Et lire leur a permis de manager, de mener des équipes. Je pense que c'est grâce à la lecture. Et ça a permis d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Et de travailler là où ils travaillent.
Oui, je pense que l'ambiance est quand même importante. Moi, j'ai un jeune neveu qui m'a rejoint à l'âge de 18 ans. Maintenant, il a un peu plus. Il a vécu chez moi et donc au milieu de milliers de livres. Et il a découvert un jour que l'écran, il a tiré un livre. Il a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis aujourd'hui, il me lit 2 livres par semaine. Quand c'est pas 3, véritablement, il est devenu un accro à la lecture. L'exemple et l'ambiance familiale est extrêmement importante.
Pour ça, quand on parle des jeunes qui lisent moins... La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que leurs parents lisent pas moins aussi ? Est-ce que les parents, d'une façon générale, alors...
Oui, parce qu'on imite ceux avec qui on vit. Donc c'est sûr que si on vit avec des parents qui ne lisent pas, on a moins de chances de lire. Mais c'est, c'est la psychologie, ça.
Alors, on va recommander un livre, hein, puisqu'on parle de ça. J'en ai souvent parlé, je ne suis pas le seul à en avoir parlé. C'est un livre de Gérald Bronner, un universitaire, un sociologue français, un de nous, qui est assez jeune d'ailleurs, et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'apocalypse cognitive », que je recommande toujours très chaudement de lire pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens lisent moins. Et il vous expliquera comment, comme Léna vient de nous en donner l'exemple, comment les temps de cerveau sont volés par les écrans, mais à des fins malheureusement purement commerciales et peut-être dans les de manipulation. Aujourd'hui, il y a d'autres livres excellents dont on parlera sur cette antenne qui nous démontrent qu'il s'agit d'une manipulation qui n'est plus que commerciale aujourd'hui, qui peut être également politique. On peut évoquer TikTok, mais on va pas trop rentrer, c'est pas le but de l'émission, de rentrer dans ce type de débat, mais il serait tout à fait intéressant. Alors, quand on écrit, vous écrivez pourquoi ? Vous écrivez pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à ceux qui vont le lire. Pour la gloire, pour l'argent, c'est quoi votre motivation ?
Ah ben moi, j'ai découvert que mes lecteurs me disaient prendre grand plaisir, enfin pas tous, mais certains.
Au moins ceux qui viennent vous voir.
Ceux qui viennent me voir ou qui m'écrivent me disent, mais bon, voilà, parfois même, certains me disent que j'ai eu quelques courriers me disant, j'étais sur mon lit d'hôpital, vous m'avez aidé à vivre ce moment.
Enfin, lève-toi et marche, ça a déjà été fait. Hein.
Bon, on n'en était pas loin. Donc, voilà. Donc, on se dit, ah, peut-être qu'on est utile à quelque chose. En tout cas, peut-être qu'on peut amener un certain plaisir, voire un petit bonheur à des lecteurs.
Muriel, même impression ?
Alors, pour moi, ça ressortirait peut-être un peu plus tout de même avec ce qu'a pu dire Yves, mais ça ressortirait un peu plus de la nécessité, puisque tout à l'heure je l'ai évoqué, je travaille un peu par thématique qui s'impose à moi, ou que je vais chercher parce qu'il y a des choses que je trouve intéressant d'approfondir, sans que ce soit de la thérapie, parce que ça n'a jamais rien de personnel, même si quand on écrit, il y a quelque part un petit bout de soi
toujours quelque
placard.
Chose qui transpire.
Et voilà,
oui.
Exactement. Mais donc, moi, ce sont des thèmes. Par exemple, si je reprends La Veuve Noire, c'est sur la vengeance, c'est le pardon. Je pose la question, je me suis posé la question et je pose la question au lecteur. Peut-on se pardonner à soi-même quand on a commis l'irréparable ? Voilà. Et j'essaie de répondre à travers un polar à ce type de question. Vendange amère, un roman noir, c'est plutôt... peut-on vouloir le bonheur de l'autre à tout prix ? Et quand je dis à tout prix, il y a un prix à payer.
Ah, il y a toujours un prix.
Voilà, oui. Voilà un peu comment je fonctionne. Alors donc, ça répond à une sorte de nécessité, et puis après le plaisir d'écrire. Parce que quand je commence à écrire, là je m'embarque. Je m'embarque et...
Ça veut dire que c'est addictif l'écriture, quand on a pris l'habitude d'écrire, ça veut dire qu'on a besoin d'écrire.
Oui, moi
on se sent mieux quand on écrit.
Oui, moi je pense que ça aide aussi à clarifier certaines choses qui sont en nous-mêmes.
C'est une thérapie.
Oui, ça peut relever de la thérapie. Ça, je l'ai constaté. Je pense par exemple notamment aux vies secrètes de Madame Sasaki que j'ai écrit.
Oui, vous n'en avez pas parlé, roman. C'est un livre charmant qui se passe à Toulouse avec une dame japonaise tout à fait délicieuse. C'est un très joli livre, il faut le rappeler, hein, Les vies secrètes de Madame Sasaki, et c'est aux éditions...
Lazare et Capucine.
Voilà, ils ont tellement que c'est même plus quel éditeur a édité quoi. Non, mais Les vies secrètes de Mme Sasaki, je vous le recommande chaleureusement parce que je l'ai lu et j'y ai pris un plaisir infini.
Et qui soulève certaines questions que je me posais, en fait, sans me les formuler d'une façon très claire, notamment sur la fin de vie, par exemple, qui a cours aujourd'hui. Donc, écrire, c'est aussi peut-être clarifier certaines choses. Qu'on soit mal ou qu'on... Donc ça sort sous forme de roman, sous forme d'allégorie peut-être, et qui, un peu comme un rêve, vous voyez, vous avez un rêve, vous avez une sorte d'histoire qui se vous vous réveillez, vous avez quelque... Bon, bah, un livre, ça peut être ça, quelque chose qui ressemble.
Qu'est-ce que vous faites de vos journées? On le sait, le matin, on fait les courses, j'ai compris, on marche.
Nous avons un magnifique jardin.
L'après-midi, on écrit, mais à part ça, vous êtes tout le temps... Je sais que vous faites beaucoup de salons, beaucoup de signatures, donc ça constitue quand même beaucoup de temps, je ne vais pas dire perdu, mais consacré à l'activité du livre. Il y a autre chose que le livre dans votre vie au quotidien?
Alors moi, oui, je m'exerce, je vais le dire ainsi, je m'exerce à bien m'ancrer avec le tai chi. Voilà, je fais du tai chi.
Semble vous avoir vu un jour sur une plage de Catalogne française, du côté du Barcarès, en train de faire quelques exercices petit matin, il y a fort longtemps de ça.
Écoutez, vous avez plus de mémoire que moi. Quand je peux, j'essaie de... Voilà.
Avant le célèbre salon du Barcarès sur un bateau.
Oui,
Le Lydia, où vous serez, je crois, cette année, au mois de juin, où on pourra vous retrouver.
Et où nous sommes toujours accueillis avec une très, très grande gentillesse par toute l'équipe.
Je vous ai interrompu. Donc, le tai chi.
Le tai chi, pour moi, la randonnée. La vie de plein air, voilà, parce que j'ai besoin de me ressourcer, je l'ai dit aussi, je suis une femme de la terre, et pour pouvoir, quand on écrit, on sort de soi, paradoxalement, alors qu'on plonge dans nos profondeurs intérieures, et en même temps nous sortons, enfin pour ma part, je sors de moi-même, et donc j'essaie de regarder vers le haut, sans aucune dimension religieuse. Mais voilà, et pour pouvoir lever le regard, il faut que je puisse être bien ancrée. C'est ainsi que je me ressens, que je sens mon besoin. Tout à l'heure, vous parliez d'être addict. Pour ma part, je vais laisser passer parfois quelques mois entre deux romans, hein, je vous rassure. Après, ce qu'il y a, c'est que quand le thème s'impose à moi, j'écris très vite. Et là, je ne cherche pas à savoir à quel éditeur je vais le proposer, si, ça, quand est-ce qu'il pourrait sortir. Non, j'écris parce que ça vient, c'est là, je trouve que c'est une grâce, quelque part, quand cela vient ainsi. Et à ce moment-là, c'est que du bonheur, comme on pourrait dire.
Et Yves, pour vous, c'est à peu près le même mécanisme?
Oui, enfin moi, je ne suis pas spécialement sportif. Par contre, oui, la randonnée, volontiers. Ensuite, beaucoup de lecture. Je crois que la lecture est pour moi primordiale. Je pense même qu'on ne peut pas écrire sans lire.
Sans lire. Alors justement, on en arrive à notre rubrique de fin d'émission, parce que pour des raisons que vous connaissez bien, dans mes émissions, on parle toujours de livres. Alors qu'est-ce que vous recommanderiez, en dehors de vos livres, et on les citera tout à l'heure avant d'en terminer, quel livre vous recommanderiez à
alors,
nos lecteurs?
Le livre en rapport avec les moissons de l'exil serait plutôt... Alors moi, j'ai pensé à John Steinbeck et au raisin de la colère. Alors c'est un grand livre, évidemment, que j'ai lu quand j'étais adolescent, que j'ai relu adulte. J'ai trouvé là une même force et ça raconte évidemment l'histoire de migrants, d'une certaine façon, de l'intérieur, qui sont des métayers américains qui, pendant la Grande Dépression, 1929-1939, vont devoir s'exiler, partir de l'Oklahoma pour aller en Californie pour donc cultiver la vigne, etc. Voilà, donc c'est un grand, grand roman social qu'il faut absolument lire. Steinbeck, c'était un combatif, sinon un combattant. Et voilà, il fait partie des grands auteurs américains avec Faulkner, Hemingway et d'autres. Voilà, mais je conseillerais vivement cette lecture.
Et Muriel, vous, livre?
Alors, vous nous aviez demandé un livre rapport aux moissons de l'exil. Et donc, moi, j'ai cherché dans ma tête et je ne trouvais pas précisément, je n'avais pas envie de faire des références à des romans récents, assez récents. Et j'ai plongé dans la caverne d'Yves, qui est sa bibliothèque, et je me suis souvenue avoir lu ce fameux livre. Alors, c'est pas un grand roman comme celui de Steinbeck, c'est un extrait de souvenir de l'auteur qui s'appelle Panait Istrati. Et en fait, il va relater son enfance qui est totalement terrible. Et c'est le titre, d'ailleurs, de cet extrait, ça s'appelle « Mes départs ». Et ça a été une résonance pour moi quand je l'ai lu il y a très longtemps de cela, par rapport à mon départ d'Algérie, justement. Et c'est l'histoire d'un jeune qui va...
Roumain.
D'un jeune roumain qui va devoir partir de chez lui parce que c'est la misère, parce qu'il est orphelin, qui va s'enfermer dans une taverne pendant des années et travailler comme un cerf, un esclave, et qui va rêver que d'une chose, c'est de partir. Et moi aussi, j'aime beaucoup les voyages et j'aime beaucoup partir. Je ne sais pas d'ailleurs si dans les voyages, je ne préfère pas partir
que revenir. On revient toujours.
Voilà.
Il faut revenir pour repartir. Alors moi, je vais parce qu'on y est, je vais vous citer un livre aussi que je viens de terminer, que j'ai adoré. Ça s'appelle Les Mavolia. C'est un livre de Giovanni Verga chez Folio. Alors je pense que vous ne connaissez pas Giovanni Verga, qui est né en 1840 à Catane. Donc c'est un écrivain sicilien qui est mort dans cette même ville en 1922. C'est son roman le plus connu, Les Malavolia, qui a été publié à Milan par l'éditeur qui s'appelle Treves, qui est édité en 1881. Alors c'est l'histoire d'une famille de pêcheurs qui vit et travaille dans un petit village sicilien qui est proche de Catane. C'est un roman qui a, je crois, inspiré le film de Visconti, La Terre tremble, qui est sorti en 48 en Italie. C'est l'histoire d'une famille qui va d'échec en échec et qui va très lentement se dégrader au moment où justement il y a l'unité de l'Italie vient de se faire, donc il y a un certain nombre de problèmes politiques. C'est un livre, on va dire 1880, c'est très ancien. Vous le lisez, c'est une écriture extrêmement moderne, extrêmement actuelle, il y a tout dedans. Moi j'ai pris un plaisir infini. Varga, c'est un homme qui était issu d'une famille aisée, cultivée, d'origine aristocratique, qui était très, très ouvert aux idées nouvelles, qui a fait du droit, sans grande conviction d'ailleurs, qui s'est peut-être un peu engagé dans le mouvement garibaldien à l'époque. Et il va écrire des romans historiques et patriotiques. Et on voit vivre cette famille italienne pauvre dans ce village pauvre. On voit les ravages de la guerre, on voit les morts aussi dans la famille, au travail, c'est des pêcheurs. On est sur un port, ils vont pêcher, et bien sûr, à l'époque, et même encore d'ailleurs, vous savez, c'est un métier qui, quand même, n'est pas innocent. Donc voilà, c'est un livre qui va vous plonger dans une ambiance qui... Ça va vous ramener quelques dizaines d'années en arrière, et très curieusement, on accroche de suite. Donc je pense que c'est une très belle écriture, et que Giovanni Verga mérite que l'on parle de lui, et mérite d'être lu. Les Mavolia, vous le trouvez, c'est pas un livre énorme, vous le trouvez chez Folio, donc c'est dire que c'est abordable pour toutes les bourses. Nous sommes au bout de nos échanges, notre balade au milieu des livres avec Muriel et Yves Carchon. Alors, on va rappeler vos livres dans le désordre. Meurtre en Lot-et-Garonne, L'ombre de l'élu, ça c'est de Muriel. Carchon, c'est un de ses derniers aux éditions Le Geste Noir. De Yves Carchon, tout seul, Sherlock Holmes et les mystères de Libourne. Alors ça, c'est quand même une curiosité, à la geste aussi. Ressusciter Sherlock Holmes, il fallait le faire avec Watson. Donc je l'ai dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire avec beaucoup de curiosité et je n'en doute pas, beaucoup de plaisir. Et puis, à quatre mains, Muriel et Yves s'y sont mis pour nous faire les moissons d'exil, pour nous replonger en 1848, au moment où, comme vous le dites, la France avait faim et on est allé manger, alors je ne vais pas dire le pain des autres, parce que j'ouvrirai une polémique terrible, mais quand même, bon, c'est une tranche d'histoire vécue de l'intérieur, et puisque Muriel est un peu originaire de ce pays, et donc la tradition familiale de fait, et puis les études historiques, les recherches que vous avez faites, fait que c'est du roman, mais c'est aussi de l'histoire, et c'est des tranches de vie de nos anciens. chrétien. Donc, il faut lire Les Moissons de l'Exil de la famille Carchon. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau d'Esprit Occitanie. Merci Léna, merci Maëva, nos deux lectrices, une plus que l'autre, mais on ne doute pas que Léna va se remettre à la lecture très rapidement. Merci à Léo Touroult qui était au bouton. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission avec tous les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. À bientôt les amis Carchon.
À bientôt.
À bientôt.